Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au balado des attachés de presse. Aujourd'hui, on discute d'urbanisme, de la manière dont nous organisons nos villes et nos territoires, et des conséquences sur nos conditions de vie. Une émission émotive, constructive et remplie de bonne foi. Tout ça sur les ondes de CFA 88.3. À tout de suite, tout le monde! Bonjour tout le monde.
Allô, allô.
Bonjour.
Allô.
Le retour de Mathieu, le retour de Mégane.
Oui.
Et encore une fois, Renaud, qui est parmi nous aujourd'hui.
Renaud, l'habitué.
Maintenant, ben oui. Rendu l'habitué, on t'a l'habitué des attachés de presse.
Ben oui, bien certain. Vous m'avez fait aimer ça, puis vous me voilà maintenant.
Ils t'ont adopté.
On a adopté Mégane aussi le mercredi. Merci encore.
Ça fait plaisir. J'adore ça ici.
Puis on a Mike aussi qui s'en vient.
Je peux présenter Mike rapidement en toute petite description, puis il pourra se présenter plus tard. Là,
ben Mike, c'est un étudiant de l'École de politique appliquée avec nous, qui a été candidat pour Québec solidaire aux dernières élections. Et aussi, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux questions municipales, d'aménagement urbain, d'urbanisme. Et donc, ça va être quelqu'un de référence pour nous en parler, avec notamment aussi Mathieu. Et moi-même aussi, qui a quand même des connaissances sur le sujet, mais on va laisser la place à nos invités. Donc, ça va être très intéressant.
Justement, pardonnez-moi, ça faisait longtemps que tu voulais en parler, Renaud, la construction de nos villes, comment on perçoit des projets immobiliers ou des projets de quartier, point, si je peux y aller dans le plus simple. Peux-tu nous en glisser un mot? Qu'est-ce qui en est venu à ça? Puis Mathieu, tu peux embarquer avec toi. On en avait discuté, ça te parlait beaucoup, donc allez-y tout bonnement. Là.
Eh bien, en fait, c'est que l'usage de nos villes, puis la manière qu'on les habite, il est conditionné notamment par les transports, puis la manière dont on construit la ville, que ce soit à travers toutes sortes d'infrastructures, à travers le niveau de densité, l'occupation du territoire qu'on en fait. Et ça a été beaucoup conditionné par l'entrée de la voiture de façon massive durant le milieu du 20e siècle. Et encore aujourd'hui, ça détermine comment nos villes sont construites et conçues. Puis ça a eu des impacts très nocifs à plusieurs degrés, que ce soit financier, qualité de vie, environnemental. Et donc, on a un mouvement depuis quelques années déjà, et particulièrement depuis les élections municipales de 2021, qui remet en question ce modèle de construction-là des villes et qui cherche à changer ça.
C'est parce qu'en fait, c'est comme si les villes étaient un peu rendues mal adaptées à ce que l'on souhaite. Puis de plus en plus, on voit une espèce de mouvement, puis surtout pendant la pandémie d'ailleurs, on voit une espèce de mouvement qu'on fuit les villes. On a un peu peur des villes, on n'aime pas ça, c'est bruyant, ça fait peur, ça pue, c'est c'est pas bon pour la santé mentale, ce genre de choses-là. On l'a vu, ce mouvement.
C'est anxiogène.
Oui, anxiogène, c'est le bon terme aussi. Ouais. Puis en plus, c'est venu un peu faire repenser notre manière de vivre la ville. Pourquoi on vit comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'on a aussi fait fausse route? Ce qu'on va un peu discuter plus en détail. Et puis, ça a donné un peu naissance à des gens qui veulent remettre en cause un peu ce modèle-là de la ville. Et puis, voilà.
Puis, tout bonnement, tu peux décrire, Renaud, un peu le plan de match d'aujourd'hui. Là. Ça, c'est une discussion, je pourrais dire, une discussion tout je sais pas trop comment l'expliquer.
On va avoir un petit peu une approche problème, solution. On va commencer par regarder les origines du problème, d'où ça remonte, définir c'est quoi le problème, dire pourquoi c'est problématique. Ensuite, on va regarder les solutions pour pallier à ça, puis à quel point est-ce que ça peut être mis en œuvre, puis ce que nous, on peut faire en tant que jeunes ou moins jeunes pour aider dans ce changement-là.
Puis, une petite question avant d'embarquer. Dès maintenant, la conception de nos villes, je pourrais dire une raison historique à ça. On a construit comme on le dit là, avec des boulevards, tellement urbain, puis on va en parler plus tard. Est-ce que il y a un clash en ce moment? Puis je sais pas si vous le voyez à travers les différentes villes, les conseils municipaux. On essaie de remodeler nos villes, comme on le mentionnait, mais c'est toujours un clash puisque ça suit pas la vision traditionnelle. Comment vous le voyez?
Ben, c'est sûr que ça va contre certains intérêts de promoteurs immobiliers. qui ont toujours fait de la même façon leur développement, tu sais, en mode banlieue, si on veut, le bungalow, le grand terrain, la grande piscine. Puis c'est un peu aussi la vision traditionnelle qu'il y a dans la demande, ce que les gens recherchent. Donc, on a toujours cette pression-là. D'autre part, on a aussi la vision traditionnelle de la part des élus qui est de dire, bon, si on veut rentabiliser notre ville, il faut constamment être dans le développement. On y reviendra à pourquoi ça ne marche pas comme modèle d'expansion d'une ville, mais ils sont encore pris dans ce modèle-là. Quoi que ça change, là. Mais c'est beaucoup ça, c'est beaucoup l'inertie qu'on a depuis des décennies, tu sais, de manière de penser, qu'il faut remettre en question.
Mike est arrivé parmi nous. Salut Mike.
Salut Dion, ça va?
Ça va et toi?
Ben ouais.
Merci de te joindre à nous, ton premier panel sur les attachés de presse. Ben, tu étais venu l'été dernier, mais dans un autre contexte. Mm-hmm. Donc, très heureux que tu viennes avec nous en studio.
Pareil.
Comme j'avais dit hors nom d'un méchant collègue, la première question que je vais lancer, c'est quoi l'origine du problème? Pourquoi on discute d'urbanisme aujourd'hui? Pourquoi il y a un manque à gagner parmi le développement de nos villes? Qui veut se lancer, qui veut se mouiller? Vas-y, Mathieu.
Ben, si on peut faire une espèce de mini-portrait historique, là. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la production est au max. Ça fait quoi? Ça fait qu'on produit comme jamais. On produit des voitures, puis c'est la naissance du rêve américain. Le rêve américain, c'est quoi? C'est l'espèce de rêve de la maison unifamiliale dans une banlieue tranquille, loin de la ville et de ses problèmes. Puis, ben, il y a une espèce de... Parallèlement à ça, il y a une utilisation de plus en plus massive de la voiture qui est donc devenue de plus en plus accessible. Ça fait que les villes se sont adaptées en conséquence, puis la façon dont on vit la ville a aussi changé. Puis, on a commencé à bâtir de très grandes infrastructures. On connaît là, les grandes autoroutes à 6 voies, des grands ponts qui ne finissent pas, des infrastructures massives. Puis ça, ben, ça fait quoi? Ben, ça fait qu'on multiplie encore les voitures. Ça fait qu'on s'en va de vivre encore plus loin en banlieue. Ça fait qu'on vit dans des villes qui décident de privilégier seulement des quartiers exclusivement résidentiels. Donc, on assigne des territoires à une seule fonction précise.
À des besoins?
À des besoins, oui, mais c'est qu'on circonscrit. Aujourd'hui, la plupart des gens habitent dans des quartiers résidentiels. Il n'y a rien d'autre autour. Ouais. On habite loin des emplois, on habite loin. Fait qu'on est obligé de prendre la voiture. Et puis là, on voit le cercle vicieux. On construit encore plus d'infrastructures pour avoir encore plus de voitures, pour construire encore plus d'infrastructures. Puis ben voilà. Fait qu'en gros, ça, c'est un peu le portrait historique. Puis ça a commencé depuis les années, ben évidemment, comme depuis les années 50, mais ça s'est beaucoup multiplié à partir des années 70, quand les voitures étaient devenues encore plus accessibles, disons, économiquement parlant.
Puis on peut dire que ce modèle-là s'est cristallisé
dans
le temps, puis que... T'essaies de remettre ça en cause, c'est impensable de changer ça?
En fait, ça a créé une espèce d'inertie. On a imaginé la ville comme ça depuis les années 50. Et puis aujourd'hui, on a encore un peu cette vision-là. Puis là, il y a des gens qui remettent en cause un peu cette vision-là en disant « Wow, pourquoi on a pensé à ça? Pourquoi on a mis ça en place? Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de vivre la ville? »
Super, puis... Je veux vous pitcher sur une question. Puis quand on pense à la voiture, on a tous des permis. Oui. Je vais le dire comme ça. En tout cas, je ne sais pas si je suis le seul, mais il y avait cette notion-là de liberté avec l'utilisation de la voiture quand on était jeune. Oh, je suis libre enfin d'avoir mon char, mon permis, je peux partir quand que je veux. Ça vient-tu un peu à accentuer ça? Cette réalité-là, la concentration de notre vie autour de la voiture puis ses infrastructures?
Ben, si je peux répondre, en fait, pas tant que ça. Ben oui, dans le système urbain tel qu'il est conçu aujourd'hui, mais en même temps, le système est conçu de façon telle que tu es dépendant de ta voiture puis tu n'as pas la liberté de te déplacer autrement.
C'est vrai.
Tu peux pas te déplacer à pied dans bien des endroits, pas de trottoir, pas de piste cyclable, tu sais.
En fait, la source de cette pensée de liberté puis d'autonomie individuelle, c'est la campagne marketing pour étendre la voiture jusque dans les familles, jusque dans le quotidien des gens. Les compagnies d'automobiles avaient produit des produits qui étaient seulement accessibles à une certaine portion de la population. Il faut penser que dans le temps, les villes étaient faites de manière où tu pouvais te rendre à ton emploi à pied, tu pouvais te rendre à l'épicerie à pied, tu peux aller voir tes amis à pied. Il y avait des tramways qui étaient accessibles. Il n'y avait pas un besoin de l'automobile. Donc, c'était une campagne marketing pour favoriser cet individualisme, je peux aller dans la nature, je peux aller ailleurs tout seul avec mon auto, j'ai pas besoin de dépendre de personne, puis c'est resté ancré dans l'imaginaire des gens.
On a mis des espèces de barrières artificielles, puis on a présenté la solution, qui est artificielle encore, la voiture. Fait que là, on fait comme, ah, ben là, regardez, je peux franchir la barrière. Mais au final, la barrière est un peu artificielle. On se l'est mis par nous-mêmes. Mm-hmm. On se l'est un peu imposé par nous-mêmes. Mm-hmm. Par la culture, par des incitatifs, puis par du lobbying de certaines grandes entreprises, notamment automobiles.
Mm-hmm. Donc, vous avez parlé du tramway. Ouais, ils l'ont. C'était là avant, ça ne l'est plus. Mm-hmm. On en reparle à Québec pour un nouveau tramway. Puis là, ça fait un peu. On sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que c'était mieux avant?
C'est difficile.
Faut faire attention.
je pense qu'il faut trancher un peu. Qu'est-ce qui était mieux avant? Ben, effectivement, on pouvait se déplacer avant beaucoup plus facilement. Dans un cercle d'environ 10 à 15 minutes, on avait à peu près tous les services essentiels à la vie quotidienne. Que ce soit l'école, l'hôpital, des cliniques, des marchés, ce genre de choses-là étaient proches, très proches de nous. Puis ben là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a un peu fait de l'étalement urbain. On a spécifié des quartiers puis des pans de notre aménagement à seulement soit des quartiers résidentiels ou soit des voyons, comment on appelle ça?
Des banlieues dortoirs.
Des banlieues, ouais, ben voilà, des banlieues dortoirs. Fait que ça fait que c'est très difficile de sortir de ces endroits-là sans devoir prendre la voiture.
Mais il faut faire aussi attention parce que je pense que le problème est plus fondamental que ça. C'est qu'il y avait une nouvelle technologie, l'automobile, qui était extrêmement utile. Faire Sherbrooke-Montréal en 1h30, c'est un gain vraiment énorme dans la vie ouais. quotidienne de quelqu'un. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'à la place d'utiliser cette technologie pour favoriser la vie humaine qui se fait d'habitude en communauté, dans un quartier où tout est à distance de marche, on a construit nos infrastructures puis nos modèles urbains autour d'une technologie à la place de la construire autour d'un besoin humain.
C'est ça.
C'est vrai.
Puis l'impact, c'est comme tu le dis, c'est la destruction de la vie communautaire. Parce que les gens sont tout le temps dans leur auto, donc ils n'ont pas l'occasion de. Ben, ils ont peu d'occasion de se croiser, puis de juste se mettre de façon organique, former des liens, puis des événements.
On le fait depuis des millénaires. L'humain, c'est ce qu'il fait depuis des millénaires.
C'est ça. Mais quand tu es dans un milieu de vie hyper segmenté, puis individualisé, où il n'y a rien d'autre à faire que tu sais voir des maisons ou après ça être dans une autre zone là c'est juste des commerces des parkings, ben tu peux pas interagir surtout en tant que jeune là-dedans quand t'as pas d'auto, tu sais t'es pogné puis dès que t'arrives à l'âge adulte que t'as ton t'arrives à 16-17 ans que t'as ton permis, t'as hâte d'avoir ton char pour sortir de ce carcan là si on veut. Puis là, ben c'est quoi la seule activité dans ben des villes rendue là quand t'as plus cette spontanéité là autour de toi de milieu de vie? Ben l'activité ça devient faire du char.
C'est vrai.
En tout cas, au Saguenay, c'était ça pas mal.
Ben, Gatineau aussi.
Val des Sources, bonne affaire.
À Valleyfield aussi.
Mascouche aussi.
Ouais, ouais. Le Québec est autour d'une seule cause, la voiture.
Puis j'en ai glissé un petit mot, puis tu sais, vous embarquerez là, comme on est très sévère avec le milieu parce qu'on constate des problèmes.
Ouais.
Quels sont ces problèmes-là? Ils sont assez larges. Puis je sais pas par où commencer. On parle notamment juste de la qualité de vie. On peut-tu continuer? Qu'est-ce que vous en pensez, tu sais?
Au niveau qualité de vie, c'est sûr, mais moi, il y a un problème qui est peut-être moins au niveau de l'individu, mais je veux dire, les budgets municipaux s'écroulent à cause de cette construction des infrastructures autour de l'automobile. Tu peux pas avoir de taxes d'un stationnement, tu peux pas lever des taxes d'une autoroute, tu peux pas lever des taxes d'une rue qui est un mélange d'une autoroute puis d'une ruelle. Tu as besoin d'avoir de la construction dense et en hauteur pour être capable de lever des fonds publics, puis ça peut pas exister avec l'étalement urbain. Puis plus tu t'élargis sur l'horizontale et plus tu as besoin d'avoir des aqueducs, des routes, des services ambulanciers, des services de police pour tout connecter cette ville qui se fait sur le large. Et ça coûte extrêmement cher. Puis c'est une des raisons pourquoi les municipalités au Québec et en Amérique du Nord ont vraiment, vraiment beaucoup de misère à offrir des services publics.
Puis qu'il y a des chicanes gouvernementales. Bon, qui paye ça, on sent la balle. Hey, les villes demandent des moyens au gouvernement provincial. Oh, ça peut-être. Ça vient rarement, très peu, en retard, bref. Quand même intéressant comme point de vue. Là.
Puis, il y a aussi le point de vue de la santé. Mm-hmm. Pour le point de vue de la santé, de manière générale, les villes actuellement construites, ce qu'on a comme modèle actuel, c'est anxiogène, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un environnement qui est pas très bon pour les poumons, on le sait, les émissions de CO2, de toutes sortes de polluants qui affectent notre santé. Ça a des considérations importantes en santé. C'est aussi anxiogène, fait que c'est pas bon pour tout ce qui est anxiété, le stress. C'est reconnu à travers toutes les études que des villes construites comme on l'a actuellement, ben c'est mauvais pour le stress, la dépression, ce genre de choses-là. La santé mentale en paie le coût. Mm-hmm. C'est quelque chose. Puis ça, moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on mette le point dessus, parce que je trouve ça un peu drôle. Souvent, on dit ah, les villes à échelle humaine ou les nouvelles villes, ben c'est difficile, ça coûte cher, tout ça. Mais la souffrance des gens aussi, ça coûte cher. C'est juste qu'on n'est pas capable de le calculer tant que ça.
Mm-hmm. Puis c'est un, dis-moi si je me trompe, ça commence à être un enjeu pris au sérieux par nos gouvernements. Ça commence.
La pandémie, là, on a fait comme c'est vrai que la santé mentale, c'est un vrai sujet.
Est-ce que c'était tabou avant? Moi, je constate que oui.
Oui, puis il y a des études qui ont démontré qu'une population qui a été spécifiquement touchée par ça, c'est que quand tout, après la Seconde Guerre mondiale, comme Mathieu l'a souligné, t'as des soldats qui reviennent d'Europe et qui vont vivre en banlieue avec leur famille, puis là, eux, ils prennent leur char pour aller au travail, les écoles prennent l'autobus pour aller à l'école, qui reste à la maison, isolée, pas de communauté, la femme. Et la femme qui est tout seule dans, chez elle à 8 heures par jour, à juste être seule, faire la cuisine, faire les tâches ménagères, ça prend pas 8 heures, ça, puis après ça, il y a rien à faire, il y a pas de communauté. On a vu les effets sur la santé mentale vraiment durs sur cette population spécifique qui a dû aller se médicamenter chez des médecins pour régler ce problème-là. Fait que ça a été étudié, puis c'est entre autres à cause, oui, on peut parler de patriarcat, mais aussi à cause d'une mauvaise planification urbaine, parce que c'était pas un problème qui existait avant l'avènement de l'automobile.
Ouais. C'est ça, tu penses à des quartiers qui sont bâtis de façon beaucoup plus dense, les quartiers justement avant la Seconde Guerre mondiale. Puis tu sais, t'as des balcons, t'as des jardins intérieurs, ce genre de choses-là, qui te permettent après ça le contact plus organique justement entre les gens. On a souvent l'image aussi des jeunes de Montréal qui jouent dans les ruelles, tu sais, ouais, qui font n'importe quoi, du hockey, de la balle, n'importe quoi. Tu sais, les vieux, ils en parlent là, de façon super nostalgique. Mais je veux dire, leur descendance, à moins qu'elle habite dans ces quelques quartiers-là qui restent aujourd'hui, n'a pas accès à ça. Si tu penses à des jeunes en banlieue, tout autour de eux est hostile. Puis on a aussi une culture en général très protectrice, donc il y a d'autres choses, mais les jeunes sont moins confrontés à des risques entre guillemets. C'est quand même pas des choses nécessairement dangereuses, c'est des quartiers secondaires c'est assez sécuritaire quand même, là. Mais ça, c'est sûr que ça a un impact sur la capacité d'autonomie des jeunes, la capacité aussi à résister à l'anxiété puis à l'incertitude. Parce qu'on n'est pas confronté à de l'incertain, on peut pas explorer par nous-mêmes le monde. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien que des chars qui passent partout puis qui peuvent te frapper, tout ça, tu sais. C'est pas un environnement propre au développement des êtres humains.
Puis on a. Et puis que ça me fait penser, tu disais nostalgie, les quartiers de ruelle. Moi, j'étais petit, ce que j'aimais, les souvenirs que j'ai, c'est la vie de communauté avec mes amis à l'entour. Est-ce qu'on s'amusait tout le temps aux mêmes places? Des gens. Du même âge, on faisait tout le temps la même chose. On sortait le soir, on sortait, tu sais, entre guillemets. Si tu brises ça, si tu construis pas un quartier qui encourage ça, ouais. C'est une perte pour tout le monde.
Il y a une raison pour laquelle les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus attirés par l'Internet.
Tellement
c'est parce
vrai.
Qu'il faut... sur Internet, tu peux avoir ce sens de communauté dans un espace virtuel avec tes amis puis avoir du fun. Pour faire ça dans la vraie vie, t'as besoin de demander une ride à papa-maman de 15 minutes pour aller au parc dans le centre-ville. À la place de demander une ride ou de demander un lift, t'es juste mieux de te connecter en ligne sur n'importe quelle plateforme qui existe. Ça aussi, ça a un impact sur la vie quotidienne des jeunes.
C'est tellement vrai. Puis, tu sais, je suis en train de me remettre en perspective. Je suis comme, hey, c'est vrai. Je me souviens très bien que mes parents m'empêchaient de traverser la rue qui était l'espèce de rue la plus passante de mon quartier. Et puis, ben, mon monde s'arrêtait un petit peu là. Où est-ce que je pouvais jouer? Ben, c'était là. Puis je me souviens très bien que c'était un quartier fermé. Moi, c'était une espèce de... C'était comment on appelle ça? Un cul-de-sac. Mm-hmm. Donc, un cul-de-sac. Puis, ben, fait que ça s'arrêtait là. Je jouais avec les quelques enfants qu'il y avait là. Mais sinon, c'était tout. Je pouvais pas vraiment traverser cette espèce de ligne-là qui était vue par moi et par mes parents dangereuse. Mmh. Fait que c'est quand même spécial qu'on en parle de même. Là, ça.
Puis des fois, ça prend pas nécessairement des investissements monstres. Là. Mmh. Ça peut être juste de mettre des dos down,
réduire la vitesse.
Affaires, mettre un accotement, des trottoirs. Il y a aussi les petits poteaux là, que tu mets sur le côté d'une piste cyclable, par exemple, ce genre de choses-là. Oui.
En fait, c'est ça, réduire la taille visuelle d'une rue réduit la vitesse des automobiles. Puis quand tu réduis la vitesse des automobiles, c'est des quartiers beaucoup plus propices à être occupés par des humains et non pas par des chars. Puis ça peut se faire de plein de manières, comme Renaud l'a dit, mais une de mes manières favorites, c'est avoir des arbres qui vont diminuer la vue juste avec leurs feuilles puis leurs branches. Puis t'as pas nécessairement réduit la taille de la rue, mais t'as réduit l'espace visuel, puis ça a un impact ou de ralentissement sur les conducteurs automobiles.
Tout est une question d'échelle. Et ça, on va peut-être en parler tantôt avec un urbaniste.
Échelle humaine, comme vous l'avez mentionné.
Il y a peut-être un autre sujet que, avant de parler des solutions que j'aimerais aborder, c'est le rêve de la voiture dont on parle, au final, est-ce que c'est réellement quelque chose de gagnant au niveau financier, par exemple, le fait de posséder une voiture, tu sais?
Non, c'est un trou à argent. Le problème, c'est que c'est un trou à argent que tout le monde a besoin. Parce que c'est impossible d'aller au travail sans automobile. Puis tu peux le voir dans des villes où, moi, dans mon cas personnel à Gatineau, me rendre au cégep en auto, c'était 10-15 minutes le matin avec le trafic. Me rendre au cégep en autobus, c'était 1h15. Me rendre au cégep en vélo, c'était 1h15. Donc, c'était vraisemblablement impossible d'avoir une vie vraiment ou d'avoir une vie productive efficace sans automobile. Mais l'auto, elle te coûte. Ça, il y a le prix de tes assurances, il y a le prix de l'automobile, des réparations, de l'essence. Puis, on le voit, il y a des raisons pourquoi les gens qui vivent dans des quartiers denses, mettons à Montréal ou dans d'autres villes plus denses, n'achètent pas d'automobile. C'est un coût que quand tu peux éviter, t'évites.
Ouais. C'est pas juste sur le plan individuel, c'est aussi collectif. Les infrastructures, c'est des milliards de dollars par année. Ben oui. On s'en rend pas compte parce que, bon, au final, ça passe dans le budget Québec 2023-2024. C'est ça, dans le PQI. Fait que c'est des choses qu'on ne voit pas tant passer, mais qu'au final, on paye tous collectivement pour des milliards et des milliards pour de l'asphalte et du béton.
Je peux juste acheter un coût sur la voiture. Le simple fait de le prendre puis de le conduire, l'auto, tu sais, c'est une charge mentale supplémentaire de te déplacer d'un point A à un point B. Ça peut paraître vraiment banal, mais dans un bus, mettons voyageur, je le fais le jeudi, ben, je fais mes travaux pendant dans le bus, tu sais, je suis productif à faire mes affaires, à socialiser dans le bus ou juste à ne pas réfléchir à, oh mon Dieu, faut que je regarde la route tout le temps puis que c'est complexe l'idée de. Je veux pas dire que c'est complexe, mais c'est particulier. C'est ça, ça peut être simple. C'est particulier notre réalité avec l'auto. Mmh. Puis, désolé de le dire, là, ce cliché-là, mais on dirait que ça fait partie de notre personnalité, là, avance notre auto. Puis de toujours se traîner avec. C'est vrai, faut toujours que tu penses à ton char. Ah, faut que j'aille le chercher.
Puis, tu sais, quand t'es dedans, là, puis que t'es dans le trafic, je veux dire, on va pas se le cacher. Ça a quelque chose d'anxiogène aussi, être pris dans le trafic. C'est stressant. Puis, moi, au Saguenay, bon, j'étais tranquille. J'imagine pas le monde qui habite Mascouche, Blainville.
C'était horrible, ça arrive nord, là. Tu sais, aller à ma job le matin, il fallait que. C'est une route qui se fait, mettons, en 20 minutes normalement, mais là, il fallait. Je prévois des fois 45 une journée. Puis justement, c'est le stress, là. Puis t'es dans l'auto, puis comme on dit, je suis en retard, qu'est-ce qui se passe, blabla. Non, c'est vraiment.
C'est bien agressif.
Ah, c'est désagréable, ça. Non, vraiment, là.
C'est du temps que t'as perdu, que t'aurais pu passer avec ta famille, avec tes amis.
Ben oui! T'sais. C'est ça, puis ce que je trouve dommage, c'est on parlait tantôt de transport en commun, puis admettons, dans les banlieues, c'est vraiment il est horrible le transport en commun, vraiment très mauvais. Comme je voulais le faire, des fois, me rendre, tu sais, c'était à Laval, c'est pas loin, c'est à côté, ou moi aussi, mon cégep, c'est 15 minutes de tour, ça m'en prenait 1h15 si je voulais le faire en autobus, ça en prenait 1h15 pour aller à la job aussi, comme il passait, tu sais, le mien, pour chez moi, l'autobus, je devais prendre, passait 3 fois le matin, 3 fois le soir, c'est tout. Après ça, le reste, je devais prendre un autobus, puis marcher 20 minutes à chaque fois. Tu sais, c'est mauvais, là. Oui, exactement.
Il n'y a pas d'avantage comparatif à prendre le transport en commun. Il n'y a pas d'incitatif. Après ça, les gens, ils chialent, ils disent « Ouais, mais là, il n'y a personne dans les autobus. » Oui, mais as-tu vu comment est construit la ville, tu sais?
On en parlera en conclusion.
Excusez. Éditorial.
Puis, oui, si je peux juste rajouter un point peut-être un petit peu moins abordé, l'environnement. les villes comme sont faites actuellement, on a parlé d'étalement urbain. D'étalement urbain, ça s'étend pas n'importe où. Hein. Mm-hmm. C'est sur des milieux naturels souvent ou sur des milieux agricoles. Puis j'ai pas besoin de faire un dessin, milieu agricole, ben pour manger, c'est quand même le fun. Puis ben milieu naturel, c'est quand même le fun qu'on ait une planète qui a un petit peu de bon sang autour de nous. Puis c'est aussi reconnu que les villes actuelles, comment qu'elles sont construites, empêchent ces espèces de milieux verts, ces espaces verts qui sont bénéfiques pour la santé, la société. Tout. Lorsqu'on demande à quelqu'un à quel moment tu te sens bien, bon, ben moi j'aime bien ça quand que je suis dans mon parc, quand il y a des arbres, quand il y a ci, ou quand je m'en fais une randonnée. Ou... Puis souvent, il y a beaucoup d'arbres à côté, souvent il y a du vert à côté. Souvent, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que t'aimes dans un endroit X, ben souvent il y a des arbres, du vert, quelque chose de vivant, quelque chose de naturel. Fait que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de misère déjà d'un à garder dans nos villes. Là. Les parcs, souvent, bon, il y a un bout qui part pour un développement immobilier ou il y a un bout qui part pour telle affaire.
Mm-hmm. Les boisés, tu sais, aussi.
Les boisés.
Parce que la nature, il y en a à qui ça peut faire peur. Ils se disent, oh, c'est la nature sauvage, il y a des ours. Mais tu sais, c'est pas plus d'être de même. Là, ton boisé derrière chez vous à Laval, là, hey, c'est pas parfait du monde, franchement. Là. Puis tu sais, tu disais l'état agricole en plus. Ouais. Les zones où il y a le plus d'étalement urbain, ouais, c'est-à-dire aux alentours de Montréal, Québec, Lévis, c'est les meilleures terres agricoles du Québec. Oui. Ils sont tellement plus rentables. Je veux dire, une terre agricole qui se situe à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à Amos, je suis désolé, la rentabilité, ce que tu es capable de produire là-dessus, ça n'a aucun équivalent. Là.
Mm-hmm. Ça me fait penser, j'étais pour rajouter, tu parles milieu naturel. Moi, à chaque fois que je passe sur un cours du District 30, ça me rend fou parce que c'est les terres agricoles les plus abondantes au Québec. Puis on foutu un 10-30 là-dedans. Désolé, là, je veux pas mépriser ce projet-là. C'est pas ça l'enjeu, mais ça me fait penser à ça, cette réalité où est-ce qu'on détruit nos milieux naturels, ouais, pour l'étalement urbain qui a à discuter.
C'est un bon exemple aussi de zonage non mixte. Dans le sens que c'est pas un milieu de ville 10-30. C'est pas un milieu de vie. Si au moins il y avait détruit des terres agricoles pour te bâtir de quoi que c'est le fun d'être, tu sais. Mais non, tu peux pas vivre au 10-30, là.
Je m'imagine mon 10-30 vivre, là.
Oui. Merci.
Entre Zara et Ardennes.
Walmart, là. Oui, mon Dieu. Mais non, cette réalité, milieu humide, à part milieu naturel, côté environnement.
Côté environnement, ouais, ben, il y a aussi l'artificialisation des sols. Ça a l'air de quelque chose qu'on est comme, voyons, là, ça ne touche pas, ça. L'artificialisation des sols, ça va nous toucher très fort. Ça, c'est que, dans les faits, c'est que nos villes, là, on les a faites pour qu'on rende la terre exposée aux intempéries, perméable aux éléments. Mm-hmm. Par exemple, en mettant beaucoup d'asphalte, beaucoup de béton, beaucoup de terre très compactée, ce genre de choses-là. Ça fait quoi? Ça fait que quand la pluie tombe, elle ne rentre pas ou très peu dans le sol. Puis ça peut mener à quoi? Ben, ça peut mener à des éboulements de terrain, des inondations, ce genre de choses-là.
De l'usure aussi. Mm-hmm. Tu sais, des
c'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Très vrai. Fait que c'est des éléments qu'il faut penser. Je veux dire, là, c'est sûr, je m'en avais donné l'exemple de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ça, c'est peut-être aussi un défaut d'ingénierie parce qu'ils se sont mis à un endroit plutôt bas.
Oui,
là,
oui, oui. Ils sont construits sur des terres qui étaient jugées inondables.
C'est ça. Fait que c'est bon. Mm-hmm. Mais le fait d'artificialiser les sols, ouais, ça crée puis ça, ouais, facilite les inondations.
L'été dernier, ou au printemps, à la baie au Saguenay, il y a eu des glissements de terrain, des maisons qui sont parties. C'est en partie parce que c'est déjà un sol argileux, mais c'est aussi parce que on n'aurait jamais dû se bâtir là-dedans, tu sais. C'est aussi ça l'enjeu. Puis des fois, on a une mentalité un petit peu genre, occupation du territoire, tu sais. Ça, là, on va ramener la civilisation, tu sais.
Développer.
C'est tellement.
Ah, mon Dieu, oui. C'est
vrai. On pense pas aux limites, aux conséquences. Puis justement, ça mène à ces conséquences-là, tu sais.
Puis tu sais, pour régler ça, il y a des solutions qui sont assez simples. Utiliser du matériau qui va pas mener à ce compactage par-dessus la terre. Avoir des chemins, des sentiers qu'on le sait seront occupés par des piétonniers, par des piétons, puis par des vélos et non pas par des automobiles. Fait que t'as pas besoin d'avoir du béton, de l'asphalte, du gravier. Tu peux avoir un sentier de terre avec quelques plantes, quelques broussailles.
Entretenues,
exactement, mais qui vont pas mener à une inondation.
puis aussi, de ramener aussi beaucoup de d'arbres autour des axes routiers, c'est aussi un aspect très important. Ça vient chercher l'eau, ça fait qu'il y a de la terre, on va nourrir les plantes.
Puis les îlots de chaleur aussi.
Ah, les îlots de chaleur.
Mais vous voulez-tu en parler? J'allais embarquer sur les îlots de chaleur.
Ben oui, ce qui se passe, c'est que quand tu construis avec du béton, de l'asphalte et que t'as pas de verdure, t'as rien pour absorber tes rayons de soleil, tes rayons UV, ta chaleur. Et ce qui se passe, c'est que ta ville devient une sorte de serre où la chaleur est compactée puis englobée dans la ville. Puis c'est pour ces raisons-là qu'on va voir des différences de température énormes entre la campagne puis le centre-ville. Il y a des raisons pour qu'on veut fuir le centre-ville. Puis une des raisons, c'est l'air est pas frais ici. Ben, il est vraiment moins frais.
Oui,
c'est pas vrai. Juste un ressenti.
C'est la réalité.
C'est la réalité. On peut calculer avec un thermomètre, l'air est moins frais dans le centre-ville. Puis ça se règle avec, comme on l'a déjà dit, planter des arbres, mais aussi avoir des matériaux qui sont plus propices au dégagement puis au reflétage de la chaleur, avoir des jardins sur les toits pour que ça puisse absorber des rayons du soleil. Ah ouais. Plein de genres de solutions comme ça qui sont accessibles.
Si je veux juste rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est, il y a aussi un aspect que c'est plutôt discriminatoire aussi. Oui. Il y a beaucoup de populations, notamment fragilisées, que ce soit des populations immigrantes, que ce soit des populations racisées, qui sont beaucoup plus touchées par les îlots de chaleur. Il y a un super article Radio-Can, si je me souviens bien, Radio-Can qui discute de ça. Puis on voyait très bien qu'il y avait une corrélation quasiment directe entre les quartiers occupés par des immigrants puis la chaleur très haute de ces quartiers.
Je pense à les quartiers ouvriers aussi, là, les quartiers avec le plus faible seuil de revenus.
Oui. Ah, la pauvreté, oui.
C'est ça, parce que quand tu n'investis pas pour embellir un endroit, ben, tu te ramasses avec la même façon de planifier qu'ils faisaient en 88. Puis en 88, je suis désolé, ça existait probablement même pas dans les concepts. non, tu sais, des schémas d'aménagement, ces affaires-là. Mais là, je pense que, et là, il nous reste 15 minutes, fait qu'on devrait peut-être parler un petit peu de solutions. Mm-hmm. C'est quoi les solutions à ça? C'est quoi le grand concept qu'on veut ramener?
Je pense pas qu'on va atteindre ça avec un grand plan méga d'infrastructure de tout régler ça. Ça va être incrémental, malheureusement. On parle de planification urbaine. Un projet de condo, ça prend des années à mettre en place. Puis nos projets de villes à échelle humaine vont prendre du temps aussi, mais on peut déjà s'embarquer sur, par exemple, une que j'aime, et Renaud en a parlé, la mixité urbaine, puis ça, c'est bloqué par du zonage. En ce moment, le zonage municipal fait en sorte que il y a des quartiers où on est obligé de construire du résidentiel avec un maximum d'étages, on est obligé de construire de l'industriel ailleurs, on est obligé de construire du commercial, puis ça fait en sorte qu'on a besoin de notre auto pour se déplacer entre ces endroits-là. Puis ça se règle avec des lois juste sur le zonage qui vont faire en sorte que les nouvelles constructions pourront se faire soit de manière plus dense, plus élevée, plus mixte, et ça coûte pas vraiment d'argent aux municipalités de changer ce zonage-là.
Puis déjà, il y a beaucoup de municipalités qui veulent le faire, mais qui peuvent pas à cause des contraintes. Je peux relancer un autre concept qui peut nous aider à se rapprocher d'une ville à échelle humaine, une ville plus vivante, une ville plus le fun à vivre, disons. C'est aussi de réduire la place de la voiture. C'est un petit peu implicite, on l'a un peu dressé le portrait, mais réduire la place de la voiture, ça fait tellement beaucoup de choses. Si on réduit les places de stationnement, puis au lieu d'avoir des places de stationnement qui coûtent cher à la municipalité puis à la collectivité, bien, on peut faire aussi des espaces verts, des espaces communs, des espaces de vie où on peut partager, échanger, chanter, n'importe quoi. On peut aussi pratiquer des sports pour les enfants, ce genre de choses-là. Et puis, bien, ça, c'est une espèce de concept qui bâtit une vie communautaire puis aussi un sentiment d'entraide envers les gens, d'avoir des espaces communs entre nos lieux d'habitation puis nos lieux d'activité. Ça fait qu'il y a un tissu social beaucoup plus serré, on s'entraide plus, sentiment d'appartenance. Mm-hmm. Puis en termes social, là, juste ça, c'est bénéfique. Puis même économique aussi, hein, comme je le rappelle, les stationnements puis l'espace attribué à la voiture coûte très, très cher. On s'en rend juste pas compte.
Mm-hmm. Puis tu sais, quand tu crées des lieux invitants où c'est le fun d'aller marcher puis faire toutes sortes de choses, tu sais, tu ramènes du monde, tu ramènes des consommateurs, je veux pas. Mm-hmm. Puis là, mettons que tu fais une rue piétonne là, dans un centre-ville, que ce soit la rue Wellington ici, la rue Racine à Chicoutimi, ben à chaque fois, tu te retrouves avec de l'activité dans les rues, des gens qui marchent, des gens qui mettent des fois des terrasses, tu sais, en plein milieu de la ville. Ben ça, c'est des gens qui vont aller dans les différents magasins puis qui vont stimuler de l'activité économique, des taxes qui rentrent, tout ça. C'est super bénéfique, là, au final, même d'un point de vue carrément de droit.
Quand, c'est pas juste des idées de gauche qu'on dit là.
Non, c'est ça.
Ben non, je veux dire, enlever le red tape hein, dans la loi administrative, enlever de la bureaucratie, à favoriser la consommation. Quand on parle de mixité, fait que permettre aux propriétaires, on peut dire, de changer des logements pour avoir des logements de location. Fait que prendre une vieille maison, puis la sectionner en différents appartements pour louer ça à plus de personnes. On est dans la densité. Mm-hmm. On est aussi dans la liberté administrative d'un propriétaire de faire ce qu'il veut avec son logement. Là.
Oui, puis autre affaire aussi, qu'on parlait de mixité, si tu as un petit immeuble, par exemple, ben ce que tu peux faire, c'est au premier étage, mais là, tu mets des commerces, mm-hmm. puis en haut, tu mets des logements, tu sais, parce que c'est assez logique comme fonctionnement, tu sais, au final. Puis il y a des lois, des règlements complètement obsolètes qui continuent de nous empêcher de faire ça. T'sais.
À changer, alors.
Oui, mm-hmm. exactement.
Sinon, moi, si je peux ajouter un point qui me tilte de l'intérieur, c'est le dossier transport en commun, puis on en a puis c'est un mot, tu sais. Les gens, ils l'utilisent pas parce qu'il est pas pratique, mais pour le rendre pratique, il faut qu'on investisse dedans, que ça coûte cher. On fait quoi? Je sais plus quoi faire, là, sincèrement.
Moi, j'ai lu, pas au complet encore, mais le livre de Stéphane Boyer qui s'appelle « Des quartiers sans voiture », qui est le maire de Laval. Lui, dans son livre, un peu, le portrait qu'il dresse, c'est qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il nous faut des quartiers sans voiture, interconnectés tous entre eux très efficacement. Ce qu'il faut faire, c'est des espaces de vie super conviviaux et attrayants, avec beaucoup de nature, denses et mixtes. Puis ça, ça fait des gros quartiers qui sont disponibles et on est capable de marcher partout dans ce quartier-là, se sentir en sécurité, se sentir bien, fait augmentation de la qualité de vie. Et puis, ben, c'est de les connecter, ces quartiers-là, très facilement et très efficacement avec des transports en commun efficaces, rapides, qui passent à toutes les 5-10 minutes pour les connecter entre eux. Puis ça, ben, ça en termes économiques, c'est fabuleux parce qu'on vient densifier, fait qu'on vient mettre beaucoup de gens au même endroit, des potentiels clients, puis ben, on les connecte entre d'autres clients. Fait que ça, quand on parle de transports en commun pas efficaces, qui coûtent cher, etc., ça, c'est une des solutions. Évidemment, c'est un peu facile à dire comme ça, mais il faut vous voir à long terme.
Puis dans le contexte québécois, si on vient au court terme, la pandémie a fait en sorte qu'il y a eu une baisse de l'utilisation des transports en commun. Puis ça fait en sorte que toutes nos sociétés de transport sont endettées. Fait que payer cette dette, le gouvernement québécois dans le budget a déjà mis des fonds là-dedans, mais payer cette dette puis offrir des fonds pour repartir et ressortir de l'effet de la pandémie, ça, c'est quelque chose de très court terme sur lequel on pourrait être tous d'accord puisque c'est il y a quelques années, là, il y a 3 ans avant la pandémie, le transport en commun était efficace plus qu'aujourd'hui.
Ouais, ouais. Puis il faut aussi le voir comme dans une logique de marché classique économie. Là. Je veux dire, c'est quoi qui détermine le prix? C'est quoi qui détermine l'offre? C'est quoi qui détermine la demande? Mais je veux dire, si ton prix est plus élevé en termes de transport, puis c'est ça que justement les sociétés de transport sont obligées de faire en ce moment, augmenter leur prix, ben ça fait moins d'incitatif des gens de passer de la voiture au transport en commun. Ils risquent de faire le contraire. Si t'as pas une offre qui est disons focussée à certains endroits bien précis dans tes transports en commun,
alléchante,
qui est pas rapide, qui est pas fréquente, qui est pas non plus à des horaires larges, ben après ça, les gens ils vont dire, mais là, il me faut une voiture, je peux pas me fier à ça, tu sais, je peux pas dépendre des transports en commun. Donc, ce qu'il faut, c'est un investissement initial massif pour être plus compétitif que la voiture. C'est ça qu'il faut aller chercher. Puis il y a plusieurs partis politiques qui l'ont proposé, puis partout ailleurs dans le monde aussi, ça a été proposé avec bien des places. En Autriche, en Allemagne, tu payes une passe où tu as accès à tous les transports en commun, donc ça inclut métro, autobus, même aussi interurbain. Tout ça, pour 1 piastre par jour, ben 1 euro par jour. T'sais. C'est un investissement initial, mm-hmm. c'est sûr, ça coûte de l'argent. Mais long terme, là, hey, la quantité d'entretien de route que tu as pu à faire, la quantité de nouvelles infrastructures routières que tu as pu à faire, on l'a dit, des milliards et des milliards, ben crime, ça te rentabilise ça en maudit. Là. Même chose. Ben,
des personnes plus heureuses, mm-hmm. ça aussi.
Ben ouais, moi, le temps que tu sauves dans une journée, là, je veux dire, si tu n'es plus coincé dans le trafic, 40 minutes aller, 40 minutes retour, puis ton transport en commun, il ne prend pas 1h15 aller, 1h15 retour. Si tu as juste besoin de 15 minutes pour aller au travail le matin, 15 minutes pour revenir, c'est des heures que tu as gagnées dans ta journée. C'est des heures que tu peux mettre dans ta famille. C'est des heures que tu peux mettre dans ton travail. C'est des heures que tu peux mettre à te reposer. C'est des heures que tu peux mettre dans, dans toi puis dans ta communauté à la place de le pitcher dans le vide du trafic.
Mm-hmm. Ça, c'est de la perte. Hein. Juste de même, du trafic, ouais, c'est de la perte. Il n'y a rien de gagnant là-dedans. Du trafic, c'est de la perte. Ouais, de pis... temps, d'argent, puis de ma santé mentale.
Oui, puis même, tu disais, si le transport en commun, ça prend 15 minutes, même si les deux, c'est 40-40, ben, le fait, comme on en parlait tantôt, rester dans l'autobus puis pas être dans le trafic, mais tu peux reposer, faire des choses, ben, automatiquement, ça a des effets super positif, autant sur toi que pour sur ta famille. Si t'arrives plus relaxé, pas épuisé, parce que t'as eu le temps de comme te calmer un peu pendant ta ride de bus, ben c'est vraiment positif pour tout le monde, là, en fin de compte. Là. Mm-hmm. Donc, ouais, vraiment.
Est-ce qu'on tombe dans... Je suis le pessimiste de l'émission, mais est-ce que c'est une utopie d'espérer à
non,
ça?
Non, vraiment pas. L'autre bord de l'océan, en Europe, il y a plein de pays qui l'ont déjà ou qui sont déjà très proches de tout ça. Ce qu'on est en train de discuter, c'est vraiment, moi je vais aller dans l'inverse de ce que tu dis, c'est une dystopie nord-américaine. Là. On est vraiment isolé dans notre bulle de l'Amérique du Nord, du Canada, des États-Unis, qui ont construit quelque chose de très particulier qui se fait pas vraiment ailleurs dans le monde. En Amérique du Sud, même dans des très côtiers, on est dense. En France, on est dense. En Grande-Bretagne, on est dense. Dans les pays nordiques, on est dense. En Asie, on est extrêmement dense. Le Japon est un pays qui a misé sur le transport en commun de manière assez impressionnante, ouais, et qui est capable d'avoir des milieux de vie beaucoup plus intéressants qu'en Amérique du Nord. Là. On est l'exception, malheureusement.
Puis tu sais, pour autant, là, on parle dans une dynamique antagoniste envers les voitures, mais les deux peuvent très bien cohabiter. Je veux dire, la voiture ne va pas disparaître à cause de ça. Ça va toujours être nécessaire. Pour te donner l'exemple du Japon, on le sait, le Japon a un géant dans l'automobile. Tu regardes, il y a aussi une culture de l'automobile qui est restée au Japon, mais en même temps, ils ont trouvé un équilibre. T'sais. Même chose en Europe aussi, là, l'automobile est aussi très présente, mais tout de même, tu as un bien plus bel équilibre. Là.
Puis si même on va être réaliste, là, moi je veux bien être réaliste, c'est réaliste de dire on ne peut pas continuer comme ça, ça ne fonctionne pas. Les villes nord-américaines qui sont plus grandes que Montréal, Sherbrooke, etc., par exemple Houston, c'est un exemple d'échec de l'urbanisme. C'est des routes et des autoroutes à 8, 10, 12 voies de large. Puis on se dit tout le temps, bon, on va rajouter deux voies, ça va peut-être régler notre problème. Ah, bon, on va en rajouter une autre, ça va peut-être régler notre problème. Ah, bon, on va en rajouter encore une autre, ça va peut-être régler notre problème. Mmh. C'est pas le cas.
Non, c'est ça.
C'est un échec. C'est un échec. Cette ville-là, c'est un échec.
Mmh. On finit à 40 voies, puis peut-être 50 dans 10
ans. Non, mais c'est ça. Puis je vous jure, vous irez regarder comment que cette ville, Houston, au Texas, s'est étendue vraiment énormément, puis ils font des autoroutes d'une largeur immense, immense.
C'est zéro efficace, là. C'est zéro efficace. De l'efficacité. Puis, tu sais, les gens de Québec aussi, ils savent probablement de quoi on parle, là. Eux autres aussi, c'est un peu le même problème. En fait, la ville de Québec est reconnue comme ayant le plus grand nombre de kilomètres d'autoroutes par habitant en Amérique du Nord. Je sais qu'on n'est pas dans la situation d'Houston, mais la mentalité en ce moment, il y a des mouvements à Québec de gens qui disent « Ah, on veut une voie de plus, on veut un troisième lien. » Ils disent des affaires comme ça, mais au final, tous les experts, toutes les études, c'est pour ça aussi qu'il n'y a d'ailleurs pas d'études qui sont faites sur le troisième lien ou du moins qui ne sont pas publiées, c'est parce que tous les experts, tous les gens qui prennent le temps d'étudier minimalement la situation pour de vrai, ils se rendent compte que ça fait juste empirer le problème parce que le concept de demande induite. Peux-tu en parler un peu,
Mike? Ben oui, la demande induite, c'est quelque chose qui est pas propre à l'urbanisme. Mais quand on parle de l'urbanisme, c'est le fait que, mettons, on a une autoroute, puis l'autoroute a du trafic, qui fait en sorte que ton 15 minutes devient 40 minutes. Ben là, le monde arrête de prendre cette autoroute-là, décide, s'il y a du trafic, ça fonctionne pas, je vais aller dans l'autobus, je vais aller prendre le vélo, je vais marcher, je vais me sortir du trafic. On l'a dit, le trafic, c'est une perte. Puis là, les gens de la municipalité, du provincial, voient un problème, puis décident d'ajouter une voie. Mais ce qui se passe, c'est que tout le monde qui était en autobus, qui était en vélo, qui était à pied pour éviter ce trafic-là se disent « Ah ben là, il y a de la place. Ah ben là, il y a moins de trafic. Je vais prendre mon auto puis on va retourner sur la route. » Ce qui se passe, c'est qu'au début, tes premières années, ça va, là, le trafic a vraiment réduit puis c'est beau, le monde sont content. Mais assez rapidement, tout le monde revient dans la route parce que le trafic a diminué et on revient dans le même problème quelques années plus tard. Puis c'est une des raisons pour laquelle la demande induite, c'est un phénomène si difficile à attaquer, c'est parce que ça se fait de manière cyclique. Oh, on a réglé le problème, fait que le gouvernement est bien content. Quelques années plus tard, le problème est encore là, on le règle encore une fois et ainsi de suite à perpétuité jusqu'à atteindre la situation de Houston, des voies énormes de 12 voies, Los Angeles aussi, c'est le même problème. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ça fonctionne pas. Ça coûte bien trop cher.
Ouais. Puis si on pouvait conclure avec une question, les citoyens en général, les gens qui écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller dans le sens d'améliorer nos villes? Est-ce qu'on a un rôle à jouer là-dedans, au-delà des politiciens?
Non, au final, la meilleure manière d'avoir un levier dans tout ça, c'est le municipal. Le municipal, c'est comme le gouvernement de proximité où est-ce qu'on a le plus d'impact. Fait qu'en tant que citoyen, si c'est l'objectif que l'on se donne en tant que collectivité, ben c'est là-dessus qu'il faut forcer. Et effectivement, il y a aussi le provincial qui donne des ressources au municipal, ce genre de choses-là. Mais au municipal, ils ont des leviers que beaucoup n'ont pas. Au municipal, c'est là où est-ce qu'on décide du zonage, là où est-ce qu'on décide de comment qu'on construit la ville. Fait que je pense que ça, c'est un des aspects qu'il faut qu'on attaque.
Puis, ben, en fait, j'avais comme la réponse à ma question, mais je pensais aux consultations que font les municipalités, mm-hmm. puis aussi ouais. les MRC sur les schémas d'aménagement. Il n'y avait personne qui se pointe là, à part les promoteurs immobiliers, ouais. puis les développeurs, puis les lobbies de l'asphalte. Fait qu'il faut se rendre à ces places-là, puis dire, non, c'est pas vrai qu'on va faire un boulevard bâtard, tu sais.
Mm-hmm. Puis, je vais essayer d'ajouter un petit peu plus de positivisme puis d'espoir. En ce moment, au Québec, on est la province au Canada, puis je dirais même l'endroit en Amérique du Nord où on a le plus d'espoir de changer les choses parce qu'il y a une génération de nouveaux maires, de nouvelles mairesses, de nouveaux conseillers, de nouvelles conseillères qui sont d'acte cette vision-là et qui essaient de changer les choses activement. Puis nous, notre job en tant que citoyens, citoyennes, c'est un petit peu bizarre, mais c'est d'aller supporter ces gens qui ont été élus dans les consultations, comme Renaud a dit, dans les séances de conseil, en démontrant le fait qu'on est d'accord avec eux puis qu'on les soutient. Parce qu'en ce moment, ce qu'ils ont devant eux, c'est des promoteurs qui leur disent « ça n'a pas de bon sens ce que vous faites » quand c'est eux qui écoutent les experts.
Ouais. Mmh. Il faut vaincre l'inertie.
Sur ces excellentes paroles, merci infiniment pour votre présence, Renaud, Mike, Mathieu, Mégane. Toujours bien intéressant, en espérant que cette émission va spinner pour qu'elle atteigne les oreilles de nos personnalités politiques pour qu'il y ait des changements concrets à notre étalement urbain, à notre mode de vie au sein de nos municipalités qui doivent être changées, tout simplement. Donc, merci beaucoup tout le monde. Jean-Luc Tritrice, merci infiniment pour votre présence. Et on se voit la semaine prochaine pour encore plus de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. À tout de suite tout le monde.